C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 117 du 19 mai 2025, notre dernière de la saison. Au sommaire, notre revue de fin de saison, et oui, on va parler de Donald Trump, Mark Carney, Donald Trump, Pierre Poilievre, Donald Trump, François Legault, Donald Trump, un anti-trans, Donald Trump, un anti-queer, Donald Trump. Est-ce que je vous ai dit qu'on va parler de Donald Trump avec nos invités Raphaël Provost d'Ensemble pour le respect de la diversité, Naomi Caron de Massy Madi et Béatrice Robichaud de Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Et puis on va recevoir aussi l'artiste Gigi Hull qui va nous parler de son spectacle au Festival Transamérique. Donald Trump? Nah.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
C'est notre discussion de fin de saison à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et quelle année riche en actualité, mais pas si riche si on parle de la diversité sexuelle et de la pluralité des identités et identités de genre. Ben, pour en parler, Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. D'abord, bienvenue à l'émission à nouveau.
Merci Raphaël. Pour l'invitation.
Bravo pour la campagne de financement d'Ensemble. Vous êtes rendu à combien, là?
À plus de 185 000 $.
C'est pas rien.
Et je veux pas qu'on retienne le chiffre dans sa globalité, mais chaque dollar cumulé, c'est ça qui est important. C'est un record pour nous des 15 dernières années. On est très contents. C'est pas terminé. Le gala, c'était l'apothéose. Mais dans les prochains jours, on est encore à la recherche des petits dollars qui nous manque pour atteindre l'objectif d'au moins 200 000.
Bien, c'est parfait. Et puis, un beau prix récemment?
Mm-hmm.
Lequel, donc?
Je suis tellement sur un nuage. Je sais pas, j'ai été nommé jeune leader de l'année par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et je capote en bon québécois.
Oui, il paraît qu'il y a quelqu'un qui capote aussi d'avoir reçu un téléphone sur la tête. Mais ça, c'est parce qu'il était tellement effervescent que son téléphone a glissé de ses mains.
J'en ai perdu mon téléphone. Ça, à la tête d'un monsieur, je le salue.
On salue, ça a l'air qu'il n'était pas plus fâché que ça. Naomi Caron, directrice générale de Massy Madi. Bravo aussi à toi, parce que Massy Madi, cette année, a fait des grands pas en avant.
Oui, ben on est vraiment content d'avoir toujours notre soutien financier de nos bailleurs de fonds, mais aussi de toutes les nouvelles rencontres avec des nouveaux collaborateurs, de nouveaux alliés. Donc, ça promet.
Et Béatrice Robichaud, présidente, là, je me mêle quand je donne le nom, parce que ça a changé de nom souvent, c'est Alliance... Arc-en-ciel?
Arc-en-ciel. L'Alliance Arc-en-ciel n'a jamais changé de nom.
OK, c'est parce qu'il y avait eu la fête arc-en-ciel, la fierté de Québec.
Bon, c'est ça, la fête arc-en-ciel.
Donc, présidente, hein, parce qu'on se trompe tout le temps, de Alliance Arc-en-ciel de Québec. Et c'est une nomination récente pour toi?
Oui, genre, en fond, depuis décembre, je suis maintenant présidente du conseil d'administration. Fait que c'est tout nouveau pour moi dans ce type d'organisme-là. Je suis très, très contente. Puis je fais des belles rencontres, Raphaël, Naomi, toi aujourd'hui, Denis. Donc,
mais nous, on s'est parlé une couple de fois, mais par l'entremise du téléphone, mais c'est pas plus grave que ça. Quelle saison on a connue? Nous, la saison, c'est de septembre à juin. Alors, je vais le dire pour ceux et celles et celles qui ne le savent pas. Canal M, comme bien d'autres médias, on a des petits soucis financiers. Donc, pour renflouer les coffres pour pouvoir faire une bonne saison l'année prochaine, on va couper cette saison-ci d'un mois. Alors, toutes les émissions ici vont être écourtées, leur saison. On va conserver que l'émission matinale jusqu'en septembre et puis on va revenir plus fort encore. Mais on disparaît pas, on fait juste prendre une petite pause. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont à suivre pendant les prochains mois. Donc, quelle saison? 12 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire des 12 derniers mois? On va parler de nos mois à nous, mais on peut même reculer de 12 mois. Un nom qu'on ne peut pas éviter, je l'ai bien mentionné dans la présentation d'émission, Donald Trump. Depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, que des reculs pour les communautés de LGBTQIA+. Lesquels retenez-vous dans ces reculs-là qui vous parlent le plus? Naomi, tu as ouvert ton micro.
Non, mais il y en a tellement que c'est ça qui est difficile à suivre. On dirait qu'il y a une vendetta à chaque jour. Il y a des nouvelles lois, nouvelles impositions, nouvelles discriminations. Donc, en fait, on se rend compte que c'est tout ce qui n'est pas blanc, cis, hétéronormatif. Donc, en fait, tout le monde, toutes les autres personnes.
Béatrice, qu'est-ce que tu retiens, toi,
Ben.
dans tout ce qui a été
C'est
interdit?
sûr, je retiens. Ce que je retiens, c'est sûr, c'est ce qui nous touche le plus proche. Ça reste quand même, ça se passe chez nos voisins, c'est inquiétant, mais concrètement, ça rend difficile le voyage pour les personnes trans aux États-Unis avec nos passeports. Maintenant, il serait décrété que ça serait de mentir au gouvernement d'avoir le genre d'assigné sur son passeport qui soit changé. Et là, ça commence à devenir sérieux. Donc ça, c'est une problématique qui touche directement les Canadiens et les Canadiennes en ce moment.
Oui, parce que il faut le dire, si tu me permets, tu es une personne trans, Béatrice. Je n'avais pas
Oui.
mentionné, puis tu, mais c'est pas quelque chose qu'on cache là, que tu caches. Et pour
Non.
les personnes trans de voyager maintenant aux États-Unis, c'est que toi, ton passeport indique que tu es une femme.
C'est ça.
Et ce n'est pas ce qui était le sexe assigné à la naissance, et c'est ça que eux veulent que tu mettes sur ton passeport.
Exactement. Donc là, c'est quoi le stress d'arriver aux douanes? Est-ce qu'on va finir en prison? On va se faire traiter de menteur-menteuse et que là, ça va causer des problèmes? C'est toutes des craintes, des inconnus. Ça affecte des Canadiens-Canadiennes directement aujourd'hui. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je suis apporté à voyager beaucoup aux États-Unis.
Oui, parce que tu as une entreprise, hein? Juste rapidement,
Oui.
qu'est-ce que tu fais comme travail dans ton entreprise?
Nous, on a une entreprise dans le domaine dentaire, donc je vais aux États-Unis parce que j'ai beaucoup de clients américains, des congrès, des formations, ainsi de suite. Donc, ça m'amène à amener à voyager partout, partout chez nos clients, principalement aux États-Unis.
Raphaël, qu'est-ce que tu retiens dans tout ce que c'est qui a été interdit, fermé aux États-Unis puis vis-à-vis de nos communautés?
Mais il y a deux choses que j'ai envie de dire. T'sais, on parle beaucoup de Trump, mais c'est beaucoup plus large que lui. C'est son administration, c'est un parti aussi qui l'a amené à être où il est aujourd'hui. Il y a des gens aussi qui supportent là-dedans. Donc, ce serait trop facile que dire Trump demain matin, il est pas là, puis ça règle pas tous les problèmes
Non,
là.
parce que son vice-président, JD Vance, c'est aussi pire que lui.
Voilà. Puis il y a d'autres. T'sais, on parle de nos voisins, mais on pourrait parler de gens ici aussi au Québec. Mais moi, ce que je retiens dans la dernière année, c'est la tension sociale. Je le dis, je le répète partout. J'ai l'impression qu'on ne sait plus se parler, on se parle plus, on se polarise. Moi, je sais pas pour vous, mais je marche, je sens cette tension-là entre les humains. Et c'est ça que je retiens de la dernière année, principalement, cette tension et cette polarisation-là qui nuit à tout le monde, finalement. Chaque communauté est affectée. Et c'est pas que la faute de ce bonhomme-là, c'est beaucoup plus large.
J'aimerais quand même ajouter certaines choses que vous n'avez pas mentionnées, mais est-ce qu'on peut parler du fait que la Cour suprême des États-Unis vient de donner raison à Donald Trump qui veut se débarrasser des personnes trans dans l'armée qui représentent à peu près 4 200 soldats, soldates dans les forces américaines? C'est quand même des gens qui sont là depuis longtemps, qui vont tout perdre. Je sais pas quelle réaction vous avez. Je pense que je vais lancer la balle à Béatrice, là.
C'est incroyable de penser que ça nuit. Je veux dire, en ce moment, moi, je me focus plus à lire des témoignages de personnes trans qui sont militaires. Ce matin encore, un nouveau témoignage qui est sorti d'un homme trans. Ça fait 18 ans qu'il est formateur dans l'armée américaine. Puis là, on lui demande de plier bagages. Puis c'est de tous ses pairs. Et quand t'es formateur, t'envoies du monde. C'est pas juste être à la tête d'un peloton, d'une division. C'est vraiment de former. Donc, c'est des centaines et des centaines de soldats que tu croises. Comme tout professeur. Et dans son histoire, c'est bien expliqué. Tu sais, il n'y a personne qui était contre lui. Au contraire, il était nommé comme étant un excellent formateur. Donc, c'est malheureux de voir des gens comme ça, puis sans compter les impacts que ça va avoir même sur l'armée américaine, parce que ce qu'on a réalisé, c'est que les personnes trans, vu les parcours parfois difficiles de vivre une transition, ça fait des gens qui sont très débrouillards. Et dans l'armée, être débrouillard donne souvent des hauts gradés.
Ouais.
Parce que c'est des gens qui réussissent à cheminer loin parce qu'ils ont vécu des difficultés, puis après ça, ils reprennent la connaissance des difficultés. Donc, ironiquement, oui, on me dira, c'est pas tant de personnes dans la totalité de l'armée, mais plusieurs sont très hauts gradés. C'est pas des gens qui se remplacent en 2 secondes parce que ça prend l'expérience qui va avec. Donc, c'est un peu se planter un couteau dans la main là, pour l'armée américaine. Je ne comprends pas pourquoi en ce moment les généraux de l'armée ne défendent pas plus cette position-là.
C'est pas nous, sans nous rappeler la purge LGBTQ+ qu'on a vécue au Canada
Ben
jusque dans les
justement.
années 90. Et c'est ça qui est déchirant de se dire qu'on est en train de revivre les horreurs du passé. On n'a pas le contrôle à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, mais quand même de voir ça, des gens qu'on côtoie virtuellement, des gens qu'on connaît, des gens qui veulent protéger avec cœur et conviction leur pays, ils sont là pas comme infiltrés, mais des gens qui croient vraiment à leur pays. C'est extrêmement violent d'être assis comme ça. Ces gens-là, quand ils sont souvent enrôlés dans l'armée, c'est parce qu'ils y croient puis qu'ils veulent défendre leur pays. Donc, de leur dire qu'ils n'ont plus leur place comme humains. C'est surtout ça, là. C'est des humains qui ne peuvent plus trouver leur place au travail et ce n'est pas leur collègue qui leur dit de se tasser, c'est vraiment le gouvernement. C'est d'une violence absolue et je pense beaucoup à ces gens-là dans les derniers temps, mais ce n'est pas sans rappeler la purge LGBTQ+, qui a affecté des dizaines de milliers de personnes ici au Canada qui ont moins de 25 ans.
Naomi, j'aimerais te lancer sur quelque chose aussi parce que dans leur politique, l'administration états-unienne force un peu les gens avec qui ils font affaire, les compagnies, à respecter leur vision sur les politiques EDI, et en fait, qui veulent mettre fin à ça, puis essayent de l'imposer au reste du monde. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te fait réagir, toi, Naomi.
Bien, c'est sûr, en fait, on est en train de vouloir effacer l'identité de certaines personnes de certaines cultures, d'effacer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de l'histoire américaine. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir ne pas le répéter sur le futur. L'Allemagne le fait extrêmement bien. Ils sont beaucoup dans la avant-gardiste, dans la progression, par justement toutes ces initiatives mises en place pour se rappeler qu'est-ce qui a été fait et ne pas le répéter. Et en ce moment, de faire toutes les initiatives, tu sais, là, on parle d'EI, donc plus d'intégration, inclusivité, diversité, mais moi, je parle surtout aussi d'enlever certains mots, d'enlever des écrits,
oui,
d'enlever des livres d'histoire, tu sais, de détruire des musées sur l'histoire de l'esclavagisme. C'est énorme. Donc, déjà, après ça, de nier qu'il y a encore déjà du racisme et qu'il y a des initiatives qui sont mises en place pour avoir une meilleure équité dans le milieu de travail, dans toutes les sphères, déjà, tu es en train de nier, encore une fois, l'existence de ces personnes-là, l'existence de discrimination et d'injustice. Je veux juste revenir rapidement à ce qui a été dit plus tôt. Moi, quand je regarde tout ça, moi, j'entends juste le mot économie. J'ai l'impression que tout ça, en ce moment, c'est pour shaker la machine, ses partisans. Ils savent que ses partisans réagissent à toutes ces actions-là. Mais en ce moment, lui, il est en train de s'enrichir sur la guerre qui est en train de se faire dans les communautés et dans la société, mais en dessous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qui est en train de se placer, puis lui est en train de se faire du cash.
Ouf! Je te donne un dernier mot sur cette partie-là de la conversation, les politiques des EI, les EDI, les politiques aussi, certains mots qu'on ne peut plus utiliser. Ça affecte même des chercheurs, des chercheuses et chercheureuses ici au Canada.
Oui. On l'a vu avec Joanne Liu même,
oui,
qui a été interdit, qu'on lui a refusé une conférence, mm-hmm, où elle parlait justement du génocide à Gaza, où elle parlait de toutes ces horreurs que des gens, des humains vivent ailleurs dans le monde. C'est cette invisibilisation-là de ce qui existe déjà et pour de vrai, qui va continuer d'exister. Donc, ça marginalise encore plus d'autres personnes. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là et à sa gang. Il s'est-tu cogné à la tête? Il a-tu reçu un téléphone sur la tête?
Il y a
aussi
quoi dans l'eau, peut-être?
Je sais pas ce qu'il boit le matin, mais ça, le monde n'allait pas si bien que ça il y a quelques mois. Mais au moins, on avançait à petits pas dans une direction qui était beaucoup plus saine. Il y avait des avancées à plein niveau. Mais comme Naomi le disait, on peut pas mélanger économie et humain. C'est deux choses. Et là, de prendre des décisions économiques qui ont un poids énorme sur des communautés, ça a aucun sens. Même si elles sont que quatre dans ces communautés-là, c'est quatre personnes qui ont aussi droit au respect, à la dignité et à la considération.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
Bon, là, on a parlé de choses très, très négatives. Est-ce qu'il y a quand même eu des bons coups dans notre monde cette année, mis à part le fait que, oui, il y a beaucoup de gouvernements d'extrême droite qui ont pris le pouvoir depuis quelques années, encore cette année aussi. Est-ce qu'il y a des bons coups? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui s'est passé?
Je sais pas, je veux pas parler pour Béatrice et Noémie. J'ai tellement la vision est brouillée en ce moment. J'ai de la misère à voir ce qui se passe de beau. Comme à tous les matins, on se réveille et dans l'actualité, il y a quelque chose de négatif qui prend toute la place et souvent en lien avec nos communautés. Mais si je peux nommer de belles choses, par contre, parce que je le vois avec l'organisme pour lequel je travaille, Ensemble pour le respect de la diversité, dans des dizaines d'écoles dans lesquelles on va, il y a des initiatives extraordinaires faites par des ados qui luttent contre les discriminations. Je l'ai vu dans une école de Saint-Laurent, des ados qui ont organisé un samedi un colloque sur la haine. Ils étaient plus de 150 réunis. Mmh. C'est des ados de 13, 14, 15 ans qui ont organisé ça tout seuls. Il y avait des élus, des conférenciers de renom. Et il faut réunir 150 ados, pas de téléphone un samedi. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. À Saint-Lambert, dans un collège, des jeunes ont fait des capsules pour démystifier ce que c'est une microagression. Ils ont eux-mêmes fait des sondages. Ça a été vu par plus de 100 000 personnes sur les médias sociaux. Ils reçoivent plein de beaux messages avec ça. Donc, il y a plein de beaux. C'est juste qu'on est mal fait. On dirait qu'on carbure pas au beau. On aime mieux voir du bobo. Mais je pense que plus que jamais, il faut qu'on pousse dans nos médias ce qui se fait de beau un peu partout ici parce qu'il s'en fait quotidiennement. Puis je le vois, des rencontres comme nous, des fusions d'organismes. J'ai collaboré avec Mme Dion, avec la Fondation Maman Dion. Il y a plein de beaux qui se passent, puis il faut qu'on le voit.
Est-ce qu'il y a des choses belles qui se passent dans notre monde? Je vais vous lancer quelque chose, vous me répondrez. Le choix de Léon XIV comme pape, est-ce que ça va changer les choses? Parce qu'on dit que c'est une personne peut-être plus ouverte. Oh, je vois.
Ben, c'est parce que, Denis, je suis pas très... De tout ce qui est de religion, etc., pour moi, c'est pas forcément des avancées. Là, j'ai beaucoup de misère avec ce sujet-là. J'allais plus m'aligner quelque chose qui nous touche plus près, qui était... Je sais qu'on va en reparler peut-être plus tard, mais dans cette période sombre-là, moi, c'est l'unité canadienne qui est quelque chose que pour l'instant m'impressionne énormément à quel point que les Canadiens sont fiers d'être Canadiens, qu'on est un peuple uni. C'est quelque chose que j'ai pas vu de mon vivant. C'est la première fois que je vois autant d'unité entre l'Est et l'Ouest. Même si, que oui, on a nos propres réalités, il y a quand même une certaine forme d'unité qui est apparue et que lors des élections fédérales qui viennent de se passer la semaine passée, il y a un message clair qui a été dit que les discours de haine, de peur n'allaient pas être la façon qu'on allait gérer la politique au Canada. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais le discours à la Trump n'a pas eu victoire.
Oui.
Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de beau à quelque part de dire que les valeurs canadiennes sont encore un sens important pour la plus grande majorité des Canadiens et Canadiennes. Puis ça, c'est quelque chose de beau.
Tellement.
En fait, je vais renchérir sur ce que tu dis. J'ai entendu aux infos ce matin que le pourcentage de Québécois, de Canadiens, excuse-moi, qui ont largué Amazon, ils n'ont plus Amazon, que ce soit Prime, c'est à peu près 17%, et qui ont réduit leurs achats chez les Américains, chez les États-Unis, je devrais dire, dont Amazon et compagnie, c'est autour de 49% qui
ont
réduit. Quand même. On n'avait jamais vu ça avant. Je vais te lancer ça, Naomi, parce que je veux quand même qu'on parle du pape Léon XIV, qui est un États-Unien, mais aussi Provo, qui s'appelle, en fait. Regardons ça.
On est-tu de la même famille?
Ah, ça se peut-tu?
Je vais y écrire sur Facebook.
C'est Prévost.
C'est Prévost. Mais je pense que Prévost vient de Prévost. Il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est trompé entre le E puis le O, puis c'est devenu Prévost. Puis c'est un ancien Prévost.
Il y a un temps où les E et les O s'écrivaient pareil. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait le pape François, puis. Pas le, excuse-moi, le roi des Français qui était François, mais en fait, ça a été mal écrit quelque part, c'est devenu français.
On a été mélangé quelque part.
Quelque part. Mais ce pape, va-t-il changer les choses? Le fait qu'il n'aime pas beaucoup Donald Trump, est-ce que c'est une bonne chose?
Oui, ben, je suis du même avis que Béatrice. J'ai plus tant foi à leur religion avec leur passé et tout ce qui se passe, mais en espérant justement qu'il va amener un air frais. Il y a des dires aussi qu'il serait de descendance afro-descendant.
Oui.
Donc, peut-être si on réussit à affirmer ça haut et clair, peut-être que ça peut changer un peu la donne. Mais encore là, tu sais, on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment ça va se dérouler.
Il y a Godéric Trop, qui est notre recherchiste ici à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, qui a eu un petit souci pour nous joindre en début d'émission, mais il est là. Godéric, je sais que tu as contribué à la préparation de tout ça. Justement, comment tout ça se reflète en politique canadienne? On parlait de beaucoup des difficultés en début d'émission, des reculs, des nombreux reculs qu'on a vus, notamment à cause de Donald Trump, mais aussi ailleurs avec la montée de l'extrême droite. Je te lance la question sur la politique canadienne. Est-ce que ça a un impact?
Ça s'est reflété dans chacune de nos émissions. Là, on parle du bilan de l'année 2025-2026. On a beaucoup parlé politique et de l'impact sur les droits des personnes de la communauté LGBT. On a entendu des voix d'une grande diversité aussi. Je tiens à le souligner cette année, des gens qui parlaient vraiment de différentes places. Et ça faisait du bien d'entendre des gens qu'on n'entendait pas toujours.
Mais ces activités. Oui, je voulais te lancer sur la politique canadienne. Je ne sais pas si t'es ou peut-être je lance le débat sur la politique canadienne. Est-ce que ce qui se passait au-dessus de la frontière, ça a eu un impact ici? Et de quelle façon cet impact-là a-t-il eu lieu au niveau de nos communautés? Je ne sais pas qui veut
J'ai l'impression qu'on a eu un peu plus peur qu'autre chose, parce que, tu sais, quand on parle de DI, je vois tout l'inverse dans des entreprises ici, de grandes entreprises, de petites entreprises qui continuent d'en faire, qui continuent d'en parler. Je pense qu'on a eu peur. Mais moi, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut arrêter de parler de lui.
Oui.
Puis c'est ça qu'il veut. C'est le bully dans la cour d'école qui va être vu et entendu. Puis je suis pas psychologue, j'ai pas besoin de l'aide pour le déterminer. Mais parlons de d'autres choses, parlons de tout ce qui se fait en EDI ici. Il y a plein d'entreprises qui ont regardé ce qui se faisait, mais on n'est pas les États-Unis. Puis Béatrice l'a bien nommé. Je pense que c'est ça qui est beau en ce moment, c'est que ça démontre toute notre différence. On n'est pas américain, on est canadien et on aborde les choses différemment. Puis l'EDI ici, c'est pas gagné partout, mais on continue d'en faire. Il y a beaucoup de gens qui en font même sans savoir ce que c'est. Mais on n'est pas les Américains, puis je pense que ça, les derniers temps nous l'ont rappelé.
La réélection des libéraux, donc, comment on interprète ça?
Bien, comme moi, j'avais tendance à le dire au niveau de la politique, c'est un message qui est envoyé. En fait, je dirais que la plus belle... La chose qui m'a le plus surpris, c'est l'article que j'ai lu cette semaine de Pierre Poilievre qui a félicité M. Carney d'avoir été élu comme étant notre premier ministre. Déjà, ça démontre, contrairement à la Trump, au minimum, il y a un respect sur la démocratie qui est placé et surtout qu'il semblait comprendre qu'il y avait une remise en doute, en questionnement qui devait se faire dans son parti, espérant que la conclusion soit que les attaques sur des minorités et ces fausses campagnes de peur n'est pas une stratégie gagnante au Canada. Je veux dire, je pense qu'il y a de la place d'avoir un parti conservateur, comme on l'a déjà connu, qui puis remet en question certaines politiques économiques. Je peux comprendre que on a des approches différentes, mais il faut faire la distinction. Fait que, je pense qu'il y a un message qui est envoyé de la part des Canadiens pour dire au Parti libéral d'être minoritaire, puis au Parti conservateur de ne pas rentrer. Je pense qu'il y a un message qui est en essai de se passer. Il est encore à construire, à découvrir, mais somme toute, je pense que c'est du positif derrière tout ça, là.
Il y a quand même près de 42 % des gens qui ont appuyé le Parti conservateur de Pierre Poilievre avec des politiques et des positions très anti-queer, très anti-trans. J'ai vu, Naomi, que tu as ouvert ton micro.
Bien, en fait, je voulais juste mentionner que oui, ça a été une élection, en fait, pour un peu se sauver le cul. Je pense que beaucoup de monde juste ça. Et c'est pas vraiment par peur que les conservateurs rentrent. Donc, mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait voulu voter pour un autre parti. Mais là, il fallait vraiment qu'on fasse tout pour pas les laisser rentrer au pouvoir. Puis c'est ça que je trouve dommage de la politique, c'est qu'on fait ça trop souvent. On vote plus vraiment pour des partis qui nous représentent, qui ont les mêmes idéaux, qui sont là pour l'avancement, l'inclusion, l'écologie et tout ça. On fait juste voter pour pas être dans la merde. Donc,
c'est le vote stratégique.
Moi, je serais vraiment curieuse de voir comment on peut transformer notre politique puis donner plus de place aux autres partis qui nous représentent peut-être mieux.
Godéric, je te vois bouger. Oui, vas-y.
Oui, non, c'est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi le fait de voter contre, de voter un peu ce sursaut national que certains ont décrit face aux menaces de Trump, de voter un peu par peur plutôt que par choix. On l'a remarqué effectivement, notamment avec notre analyste politique Alexandre,
Oui, Alexandre, oui, Alexandre
qui est
Duval.
venu décrypter chacune des élections. Et en même temps, j'ai cette phrase qui me vient en tête, si tous les gens qui sont dégoûtés de la politique s'en vont, il reste plus que les dégoûtants. Alors comment on fait pour se retroucher des
Oh,
manches?
c'est fort, c'est fort. Je vais terminer ce bloc avec ces paroles sages.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
On va commencer le troisième bloc qui est sur la politique provinciale, puis on va continuer après la pause obligatoire à E28. Politique provinciale, on est en attente au moment d'enregistrer cette discussion du fameux rapport du Comité des sages, hein, sur les questions trans. C'est quoi vos attentes vis-à-vis de tout ça?
Les attentes de ce document, ben en fait, il y a déjà il y a déjà eu disons, des bribes d'informations qui sont sorties, comme de quoi le rapport n'est pas supposé être des recommandations, mais plus une prise de photo de l'état des lieux. Fait que je te dirais que la première attente, c'est que ça soit seulement ça, que ça soit une photo de prise des lieux et qu'on ait une constatation que oui, les personnes trans doivent aller aux toilettes, puis c'est pas normal que ça soit autant une montagne avec une bagatelle, puis qu'effectivement, des toilettes inclusives veut normalement dire des toilettes avec des portes pleines, fermées, qui a moins de violence. Peu importe que ce soit une question de personnes trans, de gars, de filles ou de personnes avec mobilité réduite, là, c'est parce qu'il y a une très mauvaise conception de qu'est-ce que des toilettes inclusives, là. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais vraiment pas. Fait que je te dirais, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est juste une constatation des lieux. J'espère que c'est réellement ça et que ça ne soit pas un comité qui se dit, ben c'est ça qu'il faut faire, il faut que ça soit fait de même et de même, puis ça serait vraiment le pire.
Rapidement, peut-être que j'enverrai la parole à Naomi.
Ben, je veux juste réitérer qu'est-ce que Béatrice dit. C'est tellement large là. Je suis désolée, il y a comme du bruit à côté.
Oui.
Mais
Godéric, oui. Ben, écoute, il ne nous reste pas beaucoup de temps
c'est
avant la pause. Godéric,
bon.
oui, je savais quelque chose, parce que je sais que toi, ça t'a
Non, ben, ce
interpellé.
comité, c'est un peu une aberration, puisqu'il n'y avait aucune personne trans qui se trouvait autour de la table. C'est comme si on avait fait un comité des droits de la femme sans inviter aucune femme. Une question qu'on avait adressée à la ministre Biron à l'époque. C'est ça. On attend des conclusions de ce rapport et en même temps, on s'interroge un peu sur la pertinence de la pseudo-autorité du gouvernement par rapport à ce sujet-là, en fait.
Ben, moi, je vais en faire une petite pause de 2 minutes, puis on revient pour continuer la discussion sur cette revue de l'année 2024-2025.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, on est de retour avec nos invités pour faire cette discussion de fin d'année. Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Naomi Caron, qui est directrice générale de Massimadi, un organisme culturel afro-descendant, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Et puis Béatrice Robichaud, qui est présidente du CA d'Alliance Arc-en-Ciel de Québec, et notre chercheuse Godéric Trump. Alors, la plupart des gens sont en visio, sauf Raphaël. On parlait du comité des sages, puis c'est un mot que t'aimes pas, Raphaël.
Bien, ça dépend dans quel contexte, mais dans ce contexte-ci, il sert absolument à personne, ce titre-là. Je trouve ça aberrant, non, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça dérangeant comme terme de dire, bien, un sage, nous, on le sait, vous le savez pas, écoutez-nous, on a une expertise que vous n'avez pas. Ça envoie un message extrêmement troublant. Mais quand on entend leur mission, pour les avoir rencontrés, ils sont non, 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 nous, notre mission, c'est de prendre un portrait de ce qui se fait. Comme, OK, vous avez mal travaillé votre marketing. T'sais, je suis pas un,
Oui.
j'aime la pub, j'aime le marketing d'envie. Si c'était ça votre objectif, vous vous êtes mal vendu. Si à la base, c'est de faire un tour de ce qui se fait au Québec pour pas juste prendre le pouls des gens qui se sentent attaqués, mais les communautés, c'est une autre mission. Et pourtant, il existe un bureau de lutte contre l'homophobie,
Ben
la
oui.
transphobie et d'autres organismes ont aussi ces données-là. Mais je pense qu'ils ont raté dès le départ leur intention avec ça. Si c'est ça leur volonté, c'est un problème. Si c'est pas le cas, faut revoir son branding.
En fait, j'étais pour rappeler que la semaine dernière, j'ai reçu Gabriel Richard qui a écrit le livre Protéger nos enfants qui parle d'adultisme. Et l'adultisme, qui est donc la domination par les adultes, en fait, c'est aussi, ça se fait aussi envers les personnes des communautés queer, même si nous ne sommes plus des enfants.
Oui.
Et c'est un bel exemple, j'aurais dû lui poser cette question-là. Je vais juste vous dire, par souci de transparence, on a demandé une entrevue avec la ministre responsable du dossier, Martine Biron. Elle n'était pas disponible, mais je vais quand même dire que Martine Biron a participé deux fois à cette émission et qu'elle veut y participer à nouveau et nous allons la relancer en septembre. Mais là, j'aimerais qu'on parle d'une autre personne, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a tenu, je crois, que ce que plusieurs pensent que ce sont des propos problématiques sur les questions queer. Est-ce que je dois les rappeler ou quelqu'un veut les rappeler pour moi? Je peux parler de Mix Martin, peut-être, cette enseignante, et où il avait dit que personne ne le contraindra à appeler une personne non-binaire Mix ou MX. Sur la question des toilettes Mix à l'école, il a parlé d'idéologie en provenance de la gauche radicale. Que pour lui, il faudrait qu'il y ait une commission parlementaire sur le prétendu phénomène, donc on parle des phénomènes queer et des phénomènes imposés par la gauche radicale, je mets ça entre guillemets, et des membres des communautés LGBTQ digèrent mal l'abstention du Parti québécois lors d'un vote sur une motion contre l'homophobie, c'est récemment. La motion invitait les parlementaires à dénoncer la hausse d'intolérance dans les écoles selon un rapport du Green Montréal. Et à souligner la grande qualité du programme éducatif.
J'ai envie, tantôt, de parler du pape.
Ouais.
J'ai vu des gens sur les médias sociaux, je trouve les gens tellement intelligents et intelligentes. Tu sais, par exemple, Mix Martin, ça avait fait une tollée parce que cette personne-là souhaitait être interpellée comme ça. Il y a le pape qui s'appelle Léon je ne sais trop quoi, c'est même pas son vrai nom. Il y a des millions de personnes qui vont l'appeler avec son faux nom, puis il y a personne qui en fait un cas. Tout le monde va l'appeler, l'interpeller comme ça pour les années à venir. Il va être dans les livres. Et pourtant, c'est pas son vrai nom. Ça n'a pas l'air d'être un problème.
Ah, c'est une bonne remarque. Vous pensez quoi, Béatrice?
Qu'est-ce que j'en pense? C'est quelque chose qui est venu me chercher personnellement, là, que Pierre Saint-Paul Plamondon,
Paul Saint-Pierre Plamondon,
en
oui.
ce moment, a quand même... Le vent des voiles avec son parti, là, on voit qu'il y a un intérêt, puis on sent qu'il y a beaucoup de Québécois qui veulent supporter le parti. Puis ce qui est malheureux, c'est encore une fois, c'est un problème de politique rendu partout maintenant. C'est t'as deux cases, t'as gauche et droite, puis si t'es entre les deux, ce qui est aussi que je me sens, parce que je considère qu'économiquement parlant, il y a des choses que je suis pas d'accord avec les partis qui sont plus à gauche. Ça se discute comme toute discussion, tout peut être discuté, mais qu'en même temps, respecter l'humain, je pense que ça ne discute pas. Mais on dirait que c'est tout va avec un tout, puis tout va. Tu sais, je vais toujours donner l'exemple. J'en ai parlé avec Raphaël la dernière fois qu'on s'est dit j'ai-tu le droit d'être à gauche pour mes convictions sociales, mais d'aimer les autosports. Puis on dirait que dans la société d'aujourd'hui, je ne peux pas exister. Parce que c'est soit que tu es tout à gauche, puis tu es contre l'automobile, puis tu es anticapitaliste. Tu sais, en même temps, puis. Paul Saint-Pierre-Blandon, on dirait que son parti est un peu comme victime de ça. C'est un tout pour rien. Puis pourtant, un des membres du parti, qui est M. Paradis, que j'ai rencontré aussi, qui est à Québec ici, qui est un fervent défenseur de la cause LGBT à Québec, dans la capitale nationale. Donc, c'est sûr qu'on est à se demander qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti-là. Puis je pense qu'il faut vraiment qu'avant d'aller plus loin, soit qu'ils réajustent leur tir ou sinon que les Québécois disent le même message. Ben écoute, t'as des affaires qui nous intéressent, mais c'est pas vrai qu'on va réduire des minorités. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé au fédéral avec les conservateurs et les libéraux.
Je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Naomi, là-dessus, le fait que ce parti politique, c'est quand même le parti qui a, on va le dire, là, dans les années 70, moi j'étais assez vieux pour m'en rappeler, en fait, en 77, ça a été la première juridiction d'Amérique du Nord à interdire la discrimination envers les personnes queer. Ça a été une des premières juridictions à reconnaître les couples de même sexe. C'est quand même... Et c'était toujours sous le Parti québécois que ça a été engendré, bien que les mariages, ça a été plus sous le Parti libéral, mais quand même. Et là, on se retrouve avec des propos du genre, qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est la société qui fait ça?
Mais moi, j'essaie toujours de réfléchir, c'est quoi l'agenda derrière tout ça? Puis à la fin, tu veux avoir des votes, tu veux avoir des contribuables qui sont de ton côté, tu veux grossir ton parti. Et c'est d'enflammer des propos qu'une certaine communauté, une certaine partie du Québec pense, Puis ces personnes-là réagissent bien au message. Donc, c'est comment réitérer ça et d'aller les chercher, chercher vraiment leur position. Et je crois que, justement, je trouve ça vraiment dommage parce que, et même en même temps ironique, parce que le Québec s'est toujours battu pour son identité, pour son indépendance, pour reconnaître sa valeur dans sa diversité par rapport au reste du Canada, mais en même temps va faire dire des discours comme ça et va complètement changer par rapport à d'autres formes de diversité. Donc, après ça, moi, je pense que c'est encore là juste politique parce que si tu reviens avec ce que tu viens de dire au cœur vraiment du parti, je crois que c'est un parti qui était là en premier pour l'inclusion, la diversité, la culture, t'sais, la beauté de bien sûr, de la langue française, mais qui vient avec justement son lot d'immigration et puis tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment des moves, encore là, politiques. Pareil comme Trump, que j'ai dit, c'est vraiment pour enflammer des gens et se faire des plus grands partis avec des militants, genre qui sont prêts à prendre les armes. Là, tu sais, on le voit, je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux, il y a eu des manifestations, genre anti-immigration et tout ça, à Toronto, genre des gens qui sont mis tout en noir, puis style militaire, puis sont allés protester, vraiment fascistes. Là. Donc,
les manifestations d'extrême droite, elles sont légion. Il y en a eu aussi en France, hein, justement, contre les gens qui... en fait, c'est une anti-fasciste, je ne sais pas si on peut dire ça, oui. Ou pro-nazi, oui, on en a vu.
On a besoin d'alliés qui dénoncent. Ouais. Et c'est peut-être une occasion ratée de leur part d'avoir dénoncé des comportements extrêmement problématiques, puis pas parce qu'on parle d'une minorité, encore une fois, qu'on ne peut pas la protéger et l'intégrer dans tout le reste. Je pense que c'est un parti qu'il faut voir, qui nous rappelle, qui est un allié, puis pour le faire, c'est que pas que par les mots, mais par les actions. Puis on a besoin de gens qui sont là dans les tempêtes avec nous, qui vont défendre les minorités et toutes les minorités. Et le faire, c'est... moi, je le dis souvent, les gens qui ne sont pas contents ne vont pas s'en souvenir dans 2 jours. Mais les gens qui sont impactés, eux, vont s'en souvenir toute leur vie que tu n'as pas pensé à nous dans ces moments-là. Et je trouve qu'ils jouent mal leur jeu quand ils font ça. Ça devient politique. Et les causes et les réalités LGBTQ+, ne sont pas politiques.
Exactement. Alors, par souci de transparence, puis je pense que Derek, tu as été témoin de ça. J'ai eu plusieurs échanges avec l'entourage de M. Saint-Pierre Plamondon. J'ai fait une demande d'entrevue. Il faut le faire. Hein? Je l'ai fait le 14 février. Hein? C'est une belle déclaration d'amour. Non. Alors, elle a fait l'objet de plusieurs échanges. Alors, Éblon me disait non, pas disponible. Il y a des élections partielles. Il y a ci, il y a ça. Et il y a 2 semaines, on nous proposait justement une entrevue avec le porte-parole du PQ sur cette question qui s'appelle Pascal Paradis, dont tu parlais tout à l'heure, Béatrice. Et tout était bon. Je devais avoir une entrevue avec lui. Et vendredi, j'ai reçu un courriel de la part de la personne de communication du PQ. Puis je vais vous la lire. Je vais vous lire le courriel. J'ouvre les guillemets. Il y a eu une mauvaise compréhension de l'horaire du député entre moi et ma collègue. C'est mon erreur. Désolé, ça ne sera pas possible de participer de notre côté. Fin des guillemets. J'avoue que 3 mois de négociations pour en arriver à ça, c'est pas fort de la part du Parti québécois, qui a été, je le répète, pionnier sur les questions des droits des personnes queer. Alors, moi, je le dis parce que je veux que vous sachiez qu'on est rigoureux dans cette émission, on fait les démarches pour obtenir ces entrevues. Réaction. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à ça, au fait que le PQ n'a toujours pas donné d'entrevue à cette émission depuis... On en a eu une fois lors des élections il y a 3 ans. Je ne sais pas, Derek, je pense, veux-tu te lancer là-dessus?
Non, mais c'est de la déception, c'est sûr, parce que, comme tu dis, on organise avec rigueur ces entrevues, on fait nos recherches, on leur donne la possibilité de s'exprimer, de reparler de ces maladresses, de ces quiproquos, d'amener de la clarté. Et puis, ils ne saisissent pas l'occasion de le faire, mais l'occasion leur sera donnée une prochaine fois, parce qu'on va rester toujours ouvert dans nos invitations.
C'est quoi l'expression qu'on dit, on va leur tenir les pieds contre le feu, c'est ça?
Mais il y a aussi, il faut que les bottines suivent les babines.
Ouais.
Puis je pense que c'était peut-être encore une occasion ratée, justement, de venir ici sur une plateforme alliée des communautés, de venir s'exprimer, d'entendre, d'écouter, dialoguer, d'avoir un peu plus de nuances peut-être. C'est une occasion où, justement, il y a l'espace pour s'expliquer à la limite, parce que ce qui s'est passé dans les derniers mois, ils jouent souvent sur « on était mal interprétés, nanana, ben, ok, mais viens en jaser ». Je trouve ça très dommage, puis ils sont quand même, oui, une petite équipe, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un disponible 10 minutes, même en Zoom. On a 2 personnes qui sont à 10 distance en ce moment. 3 personnes avec nous. Ils ont des horaires de premier ministre, eux autres aussi.
Tout à fait.
Et ils sont là avec nous. Et pourtant, ils ont trouvé l'occasion de venir parce qu'ils savent que c'est important. Puis il n'y a pas un micro plus important ou moins important qu'un autre. Le tien est tout aussi important que ceux de Radio-Can, mettons.
Merci
de dire ça. Je le pense.
Mais merci. S'il y a d'autres réactions, peut-être, je sais que Béatrice t'a parlé de Pascal Paradis, tu le connais?
Bien, dans le fait, je le connais, je l'ai rencontré parce que c'est sûr, il est à Québec, dans la capitale nationale, puis il a toujours été proche de l'Alliance arc-en-ciel. Il a toujours été dans les marches de Fierté Québec. Donc, tu sais, c'est sûr, ça revient à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ils sont juste 4 élus, bien, peut-être 5 maintenant. Je veux dire, ils doivent toujours bien se parler, là, à 5 personnes, ça ne fait pas des gros meetings, là. Ils doivent bien se dire, à un moment donné, qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Je serais bien curieuse d'être des meetings, mais... En tout cas, j'espère que... Moi, je donne toujours la chance à tout le monde de se corriger, de s'excuser et de changer. Discussion que j'ai beaucoup avec Raphaël, justement, qu'on ne vaut pas mieux que les gens qu'on réprimande si on n'accepte pas qu'ils puissent changer. J'espère que ce parti-là va faire des changements sur ça. Puis, vaut mieux le faire maintenant que jamais, comme à la Donald Trump.
Les communautés vont s'en souvenir quand il va être le temps de voter. Hein? Je le disais tantôt, là.
Oui. Je vois que tu as ton micro d'ouvert, Godric. As-tu autre chose à ajouter avant qu'on passe à la prochaine section?
Ah, non, tu voulais parler de Néonome? Je suis d'accord. Et j'aime cette idée de la nuance que tu amènes, Raphaël.
Nuance.
Tu voulais ajouter quelque chose, Néonome, ou on passe à la prochaine étape? C'est bon.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Ouais, on fait toujours cette petite pause-là pour changer de sujet. Là, on a parlé de choses bien difficiles pour nos communautés, mais il y a quand même des choses qui se font. Parlons de la mobilisation de nos communautés. D'abord, est-ce qu'elles se mobilisent? Je te regarde.
C'est une si grande et belle question. Est-ce qu'elles se mobilisent dans quel sens?
Pour résister à ces reculs qu'on lui impose ou qu'on veut lui imposer.
Je pense qu'on a encore un peu de travail à faire. Ouais. Il y a des connexions qui se font, il y a des gens qui collaborent ensemble, mais je pense qu'on est aussi à l'image du reste. On n'est pas tous des meilleurs amis. Il y a des sensibilités, il y a des gens qui prennent plus de place que d'autres. Je pense qu'on est nous-mêmes aussi en ce moment en train de se redéfinir comme communauté avec un très grand S à la fin. Là. On n'est pas la communauté, on est les communautés. Ouais. Je pense que plus que jamais, il faut qu'on travaille par contre ensemble, mais il faut qu'on le fasse en répétant les erreurs du passé. Et ça, je pense que ça va prendre du temps, qu'on écoute et qu'on soit sensible aux réalités des autres, puis qu'on inclut pour de vrai, puis qu'on répète pas, qu'on soit pas cordonnier mal chaussé nous-mêmes, comme communauté, avec tout ce qu'on a à faire. Mais je pense qu'il y a de belles choses qui se font, je le vois, et je nous name drop, mais je le vois avec Béatrice à Québec, où on commence à collaborer avec Naomi, on a pris le temps, on s'est donné rendez-vous, on s'est vu dans des rencontres, et on s'est dit, il faut aller de l'avant ensemble, puis on l'a fait. Ça prend du temps, mais on l'a fait. Puis je pense qu'on a à gagner à travailler encore plus en équipe, mais il y a une expression qui est précieuse puis que j'aime beaucoup. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin, mais je rajoute pas simple.
C'est tout à fait vrai. Naomi, je pense que je te lance la question parce que je peux le dire, Merci Madi est une organisation donc qui représente des personnes racisées aussi culturellement, et ces personnes-là sont souvent je vais le dire, oublié hein, dans nos organisations queer. Je me trompe pas quand je dis ça?
Exactement. Il y a beaucoup de défis en ce moment. Je pense que tout ce qui se passe plus haut à la sphère politique se rend dans tous les éléments des communautés, des organismes. Donc, les cages sont très shakées parce que malheureusement, on est encore dans certaines cages. Et comme Raphaël a dit, on est vraiment plus en train de faire de l'introspection et essayer de se guérir à travers ça pour pouvoir avancer. Puis, tu sais, depuis, je te dirais depuis le Black Lives Matter, quand là, vraiment, on a pu prendre notre place dans la sphère quand même populaire, donner notre opinion, parler de notre trauma, parler de notre de qu'est-ce qu'on a vécu. Il y a beaucoup d'attentes à ce que, genre, OK, vous avez dit, vous passez au next, il faut passer tout de suite au prochain niveau, mais il y a quand même des étapes dans la guérison à franchir. Et nous, c'est ça qu'on veut se donner en ce moment, c'est de pas trop s'embarquer dans le feu de tout ce qui se passe, de rester vrai envers nous-mêmes, de se regarder, de se guérir et de se fortifier pour la suite en créant justement des liens fort et authentique, d'être moins dans tout le temps la course à la survie, à survivre, tu sais, vraiment plus en train de faire une stratégie de pérennisation de nos activités et qu'on puisse donner justement à nos communautés, à nos membres, tous les outils pour qu'ils puissent s'exprimer, rentrer dans la sphère populaire et prendre plus d'opportunités, comme Godéric a mentionné, de prendre la parole, de prendre le courage d'être dans des lieux, des sphères qui ne les représentent pas ou qu'ils sont en minorité, mais qu'ils aient le courage de le faire. Donc c'est ça qu'on est en train de faire cette année pour nous, là, vraiment se restructurer, là.
Je vais laisser 30 secondes à Béatrice et 30 secondes à Godéric parce qu'on arrive à la fin de la discussion.
Moi, je vais amener un message positiviste dans cette question-là.
On en a besoin.
La capitale nationale, en ce moment, elle a un rôle de grand frère à jouer dans la province. On est quand même la plus vieille ville ici. Puis la communauté LGBTQ+, les communautés à Québec, ça, il va se passer des grandes affaires à Québec. Inévitablement, je suis bien placé de le dire. Nous, on a, au contraire, on n'a que des annonces positives pour cet été. Puis j'invite toutes les communautés à regarder ici parce qu'on est bien placé, on vit moins de situations un peu, puis on va pouvoir amener un message positiviste, puis c'est quelque chose qu'on est très fier en ce moment, puis on en a besoin à un grand niveau.
Rapidement, Godéric.
Rapidement, tous concernés. On est tous concernés et on doit davantage le faire savoir. C'est ce que je retiens aussi de cet appel aux alliés qui est lancé un peu partout de le faire, de le dire, de prendre la parole, de dénoncer, d'être conscient qu'on prend un risque aussi en parlant, on s'expose, mais ouais, c'est important de le faire maintenant.
Godéric Trob, Naomi Caron, Béatrice Robichaud et Raphaël Provost, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Le Festival Transamérique, le FTA, c'est un festival international d'art vivant dédié à la danse et au théâtre dans leurs expressions les plus actuelles. Depuis sa création, sa première édition en 1985, il est en quête de créations courageuses et singulières et de perspectives nouvelles. Il fait place, une grande place aux thématiques queer, je peux le dire, parce que j'ai vu souvent des spectacles du FTA. Alors, ça commence dans quelques jours et nous recevons l'artiste interdisciplinaire transféminine non-binaire. C'est comme ça qu'on m'a demandé de te présenter, Gigi Hull, dont le spectacle Extérieur Nuit sera présenté pendant le festival. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Ben, ça me fait plaisir d'être ici.
Je me rappelle qu'à la dernière émission, tu m'avais dit qu'on utilise les pronoms et accords féminins, c'est toujours ça?
Absolument.
Parfait. Je t'ai présenté avec quelques mots de la biographie que m'a envoyé le FTA, donc artiste interdisciplinaire transféminine non-binaire issu des arts vivants, et tu détiens un baccalauréat en études théâtrales de l'UQAM et un diplôme de mise en scène à l'École nationale de théâtre. Beaucoup, beaucoup de choses. Comment toi, tu décris ta démarche artistique? Parce que là, ça, c'est un CV, ça.
Oui, ben effectivement, c'est toujours drôle de lire ces textes-là qui sont très, très descriptifs. Ben c'est sûr que moi, j'opère en art vivant. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans le travail? Ben justement, c'est le vivant, c'est la question de la présence, beaucoup. Dans le cadre de ce que je fais pour le Festival Transamérique, puis c'est une première pour moi, en fait, j'ai écrit la pièce, une pièce de théâtre. Donc là, j'étais vraiment... pas dans mon rôle habituel. Moi, justement, comme tu viens de le dire, j'ai fait des études en mise en scène. Et là, au sein de mon collectif qui s'appelle le Théâtre indépendant, là, j'ai pris la plume pour écrire une pièce qui va être présentée. Donc, je suis là dans un nouveau, je ne sais pas comment dire ça, comme spectre de travail.
Oui.
Qui change un peu mes paradigmes. J'ai l'impression que comme artiste, j'avais été beaucoup au service de la parole de d'autres personnes. C'est quelque chose que je trouve très beau à faire.
Oui, parce que ça fait beaucoup de mise en scène, moi, que j'ai vu. Mm-hmm. Quelques-unes, au moins, au Théâtre Prospero, oui.
Oui, puis où je travaillais parfois avec des récits de d'autres personnes que j'aidais à donner vie. Puis j'avais beaucoup vu ça, ce travail-là de mise en scène, comme un travail d'accompagnement d'une parole. Et puis là, justement, avec mon collègue Charles Voyer, par exemple, le dernier spectacle qu'on avait fait au Théâtre Prospero, qu'on était venu parler ici il y a quelques temps, c'est un récit que Charles avait écrit, que j'avais mis en scène, où il jouait dedans. Et là, on a décidé de s'inverser le rôle. Donc Charles va mettre en scène ce spectacle-là, qui s'appelle Extérieur Nuit, qui va être présenté au Festival Transamérique, que moi j'ai écrit. Donc là, c'est ma parole qui prend la place. C'est une position vraiment différente.
Mais... Justement, de quoi est-il question dans Extérieur Nuit?
Extérieur Nuit, c'est un récit qui se présente comme une fiction où on suit trois personnages. C'est donc vraiment une œuvre qu'on appelle donc chorale, donc où on suit trois personnages de façon individuelle dont leurs chemins vont finir par se croiser au cours d'une nuit. On a le personnage de Joël qui est une adolescente qui a usurpé l'identité d'un de ses collègues d'école pour aller rencontrer un homme adulte qui fait de la cam et pour aller le rencontrer dans un
parc. La cam, c'est de la drogue, excuse-moi.
Ah non, non, en fait, non, de la cam porno.
Ah, de la cam, de la caméra, excuse-moi. Oui. OK, j'ai pris l'expression française. Merci de me corriger.
Oui, ben non, mais c'était moi, c'était pas clair. Surtout dans ce genre de je sais pas, comme de milieu-là,
illicite peut-être.
Oui, ouais. Illicite. Ouais. Donc, elle rencontre en ligne ce garçon-là sous une fausse identité. Elle se fait elle-même passer pour un jeune garçon et l'invite à aller dans un parc la nuit. Et on suit aussi ce personnage-là qui s'appelle Cody, qui a fait aussi de la cam, l'autre sorte de cam, donc qui est dans un état plutôt altéré et qui va chercher à aller rencontrer cette personne qu'il pense être un adolescent dans un parc. Et entre-temps, les deux vont rencontrer d'autres personnes dans ce parc-là. Il y a comme une espèce de chassé-croisé qui finit par ne pas devenir. Et il y a ce personnage-là de Sandra, qui est une femme assez mystérieuse, qui, elle, revoit des souvenirs ressurgir et qui va aller aussi se promener la nuit dans le noir.
Bon, alors, je vais revenir à l'identité de genre dont on a discuté, parce que ça fait partie, je crois, de ta démarche artistique. Est-ce que ça joue autant que je le crois?
Je pense que c'est la question de l'identité de façon plus générale que nécessairement l'identité de genre. Je pense avec donc notre collectif Au Théâtre Indépendance pose beaucoup de la question aussi de comment la violence traduit nos identités ou comment nos identités sont comme formées, sculptées par la violence. Je pense que quand on est des personnes queer, c'est quelque chose qu'on vit, parce que ce soit que la question de notre genre, notre orientation sexuelle, généralement, vient d'une forme de combat autour d'adversité, autour de violence, et on se forme avec cette violence-là. Puis je pense que c'est ça qu'on voit aussi dans la pièce, de façon... je pense que la pièce parle d'identité sans aborder directement le sujet avec ce personnage-là, donc d'adolescente qui s'appelle Joël, mais en fait, il y a plusieurs noms parce qu'elle prend plusieurs identités différentes au cours de la pièce. Et elle vit dans ce fantasme-là, dans ce fantasme numérique-là de pouvoir être qui elle ou il ou elle veut. Si on veut, en suivant ses fantasmes. Donc, ce personnage-là, je pense qu'il incarne beaucoup ça, beaucoup ce sentiment-là que j'avais quand moi, j'étais jeune, puis que j'utilisais Internet, pas toujours de la façon... je pense que c'est bien qu'on donne des cours d'éducation maintenant aux jeunes sur Internet. On trouvera devoir en donner plus, parce que c'est un peu inspiré de faits plus ou moins vécus. C'est une fiction, mais inspiré. Puis je pense que ce personnage-là de Cody aussi, qui c'est pas qui il est, qui se cherche, qui se prend encore peut-être pour un enfant. Fait qu'il y a quelque chose aussi là-dedans, le personnage de Sandra qui revoit des souvenirs ressurgir et qui va changer la vision qu'elle va avoir d'elle-même. Elle va se rendre compte qu'elle est peut-être pas une aussi bonne personne qu'elle pensait qu'elle était. Et qu'est-ce qu'on fait quand on découvre qu'on est un monstre? Donc, c'est des questions que la pièce pose.
Wow! Oui. Ben, je pense que ça, ça dit pas mal. Cette fois-ci, donc, tu as écrit le texte, mais la dernière fois que je t'avais interviewé, tu faisais la mise en scène, et c'est la mise en scène du texte écrit par Charles.
Par Charles, exactement.
Charles Voyer. Oui. Et il jouait, mais toi, tu ne joues pas.
Moi, je ne joue pas, non. Moi, je n'ai pas de formation en interprétation.
Ah, OK. Mais je pense que tu serais bonne.
moi, c'est les personnages. Ouais. Être sur scène, je suis parfois sur scène, je fais parfois de l'art performance, je suis parfois sur scène. Un personnage, apprendre un texte par cœur aussi. Moi, chapeau aux interprètes aussi. Je pense que le texte est particulièrement dur à apprendre. Il y a beaucoup de répétitions.
C'est dur, oui.
Oui, il et elle se perdent vraiment beaucoup dedans, constamment, mais travaillent très fort à me faire justice et je les remercie vraiment, vraiment, vraiment.
Bon, rappelons, c'est présenté où, quand?
Oui, donc c'est présenté au Théâtre Prospero dans le cadre du Festival Transamérique.
Oui, Théâtre Prospero qui est sur la rue Ontario ici.
Sur la rue Ontario, c'est dans le village. Puis c'est du 28 au 3, donc du 28 mai au 3 juin.
Et on peut se procurer les billets sur fta.ca?
fta.ca, sur le site du Prospero, il y a un lien. Tout est super bien fait.
Gigi! Ah, j'adore JJ parce que les gens ont dit JJ. Hein, comment est-ce qu'on
tout dépendamment, parce que donc c'est écrit, mais mon prénom c'est deux fois la lettre J.
Ouais.
Au Québec, c'est ça se prononce JJ, mais après ça, JJ, c'est aussi.
J'adore. JJ, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Puis j'espère que tu vas revenir.
Ouais, un grand merci à vous.
Merci.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
C'est la dernière de la saison et comme je dis à chaque fin de saison, avoir un micro, avoir le privilège de vous parler, c'est vraiment quelque chose de spécial et j'utilise ce privilège avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'humilité. Je vous remercie tout le monde d'être avec nous chaque semaine. On va prendre une petite pause plus longue pour l'été et on sera de retour après la fête du travail. D'ici là, bien, je remercie l'équipe Godric Trump, Maurice Bolduc qui fait la mise en onde et moi je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci beaucoup d'être avec nous chaque semaine puis on se retrouve après l'été. D'ici ce temps-là, moi, je vais animer l'émission du matin pendant un petit bout de temps ici.